Ce chant s'intitule Freedom, Liberté. C'est interprété par The Golden Gospel Singers. Et on trouvait que c'était dans le ton parce que notre prochaine discussion va porter justement sur la saga du spectacle Slave. On s'en est parlé hier justement avec le metteur en scène, entre autres Serge Postigot, qui comme bien d'autres ont réagi à cette saga. Au cours des derniers jours, vous avez vu, ça a fait beaucoup parler ce spectacle où Robert Lepage, le metteur en scène, Betty Bonifaci, celle qui a coproduit le spectacle avec Robert Lepage, se sont fait un peu tirer des roches par rapport à ce qu'on a appelé de la récupération culturelle, ethnique de ces champs d'esclaves. On va en parler parce que ce matin, Robert Lepage a émis un communiqué où il s'explique, où il dit entre autres qu'il s'inquiète pour la liberté d'expression ou pour lui, parce que vous savez que le spectacle a été carrément annulé, il restait une douzaine, 13 environ représentations qui n'auront pas lieu. Et il dit, donc je le cite de ce communiqué, il dit... Maintenant que Slave est officiellement muselé, il nous faut bien trouver un autre moyen de dire. Pour moi, la chose la plus navrante que je note dans la rue comme dans certains médias, c'est l'affligeant discours d'intolérance. Tout ce qui a mené à cette annulation est un coup porté à la liberté d'expression artistique. Et je considère, dit Robert Lepage, que mes 40 années d'expérience dans les arts de la scène m'autorisent à parler avec légitimité de cet aspect de la question. Il continue en disant « Depuis la nuit des temps, la pratique théâtrale repose sur un principe bien simple, jouer à être quelqu'un d'autre, jouer à l'autre, se glisser dans la peau de l'autre afin d'essayer de le comprendre et par le fait même, peut-être aussi se comprendre soi-même. Ce rituel millénaire exige, le temps d'une représentation, que l'on emprunte à l'autre son allure, sa voix, son accent et même à l'occasion son genre. » À partir du moment où il ne nous est plus permis de nous glisser dans la peau de l'autre, où il nous est interdit de nous reconnaître dans l'autre, le théâtre s'en trouve dénaturé, empêché d'accomplir sa fonction première et perd sa raison d'être. S'il n'en tenait qu'à moi, finit Robert Lepage, le spectacle tiendrait encore l'affiche. Alors, je vous tenais à ce que vous le sachiez, ce que Robert Lepage dit, parce que je trouve que c'est intéressant de la façon dont il présente. Je vais vous présenter maintenant mes invités pour en discuter. Hassan Seradji, que vous connaissez bien, habitué de notre émission. Merci d'être là, Hassan.
Merci à vous.
Marie-Lou Kraft, également avec nous. Marie-Lou, qui est diplômée en études théâtrales de l'École supérieure de théâtre de l'UQAM, qui œuvre dans le milieu des arts depuis très longtemps. Et celle un peu par qui ça nous est arrivé en français. Marie-Lou, merci d'être avec nous, parce que la Gazette a réagi d'abord. C'est d'abord dans la Gazette que ça a fait jaser beaucoup. Et vous, vous l'avez comme dit dans les médias français, francophones.
Oui, en fait, j'avais fait un statut Facebook, tout simplement, au départ, à peu près, je crois, un peu avant que la Gazette en parle aussi. Puis ça avait tout de suite pris des proportions qui m'avaient un peu dépassée. Ça avait été partagé beaucoup. Betty Bonifaci avait répondu à ça. J'avais interagi un peu avec elle sur Facebook. Puis ensuite, Urbania m'avait invité à élaborer ma réflexion un peu sur son site web. Donc, j'avais publié début décembre dernier un texte sur le processus de création du spectacle.
Voilà. Où vous disiez qu'est-ce qui cloche dans le fond avec ce spectacle-là.
Ouais.
Rappelez-nous votre position donc là-dessus. Qu'est-ce qui cloche pour vous dans le spectacle qui a été présenté? Malheureusement, il y a très peu de gens qui l'ont vu,
oui,
puisque ça a tout de suite... Ce qui est un peu dommage, est-ce que vous reconnaissez que c'est un peu dommage que les gens n'aient pas pu se faire eux-mêmes leur opinion?
Bien, en fait, moi, ce que je disais dans ce texte à la base, c'est que j'essayais d'attirer l'attention sur le discours, sur comment ce spectacle-là était présenté. Parce que moi, ce qui m'avait étonnée, c'est que quand on avait annoncé la tenue du spectacle en novembre, c'était présenté présenté comme un spectacle qui, une odyssée théâtrale à travers les chants d'esclaves afro-américains. Ouais. Donc, on le présentait comme une célébration spécifiquement des chants d'esclaves afro-américains. Pourtant, toutes les personnes qui étaient nommées comme faisant partie de l'équipe de création de ce spectacle-là n'étaient pas des personnes noires. Donc, je me disais, est-ce que ces personnes-là sont impliquées dans ce processus-là? Puis, je pensais à toutes les réflexions qu'on a eues dans les dernières années sur justement la représentation des personnes appartenant à des minorités culturelles dans les médias, sur la scène. Il y a très peu de personnes racisées là, qui sont considérées comme faisant partie de minorités visibles, qui ont accès à la scène, puis on voit pas beaucoup de personnes noires sur scène. Donc, je me disais, ah, mais c'est curieux quand même. Ça semble être présenté comme étant tenu par Betsy Bonifacié et par ses choristes qui ne sont pas noires. Donc, j'avais un peu peur qu'on se retrouve un peu dans la même situation où on a des personnes noires sous-représentées sur scène, alors que c'est un spectacle qui cherche justement à les célébrer. Donc, ce que je disais dans mon texte à la base, c'est que je posais des questions, surtout, en fait, je me disais, est-ce qu'on est à l'aise avec ça? C'est curieux. Quand j'ai publié ça, on venait tout juste de se sortir d'une polémique où il y avait un discours qui avait été prononcé par un commerçant, puis ça avait fait tout un tollé, puis je me disais, c'est curieux parce que j'ai l'impression qu'on se porte vite à la défense de comment, par exemple, le peuple québécois est représenté dans la sphère culturelle, dans les médias, par les commerçants, mais on n'a pas cette réaction-là du tout quand quelque chose de semblable semble arriver, mais pour la communauté noire. Donc, j'essayais surtout de poser des questions, mm-hmm. d'inciter les artistes du spectacle à prendre part à ce dialogue-là ou à peut-être répondre aux questions que j'avais.
Et étiez-vous à la fameuse manif là, où il y avait des gens là, qui étaient à l'entrée du théâtre?
Je suis allée voir la manif. Moi, je n'ai pas eu de lien avec cette organisation-là, mais j'étais curieuse de savoir ce que les personnes avaient à en dire.
Parce il y avait combien de personnes?
Je ne sais pas combien de personnes il y avait. On a dit quelques dizaines de personnes, une centaine de personnes. Les estimés ont vraiment varié. Puis, on voyait dans cette manifestation-là que il y avait beaucoup de colère. Mais ce qu'on n'a pas beaucoup dit par rapport à tout ça, c'est ce qui a mené à cette colère-là. Ouais. Parce que après la publication de mon article, il n'y a pas eu beaucoup de réponses de la part des créateurs. Puis au contraire, ils ont semblé un peu attiser les craintes que j'avais en déclarant, par exemple, qu'eux, ils ne voyaient pas la couleur, qu'il n'y avait pas... Betsy Bonifacié a dit qu'il n'y avait pas de couleur dans sa vie. Elle disait que dans le spectacle, il n'allait pas parler de questions raciales spécifiquement. Il n'y aurait pas de noir ouais. et de blanc, mmh. que tous les peuples souffrent de la même façon. Puis je trouvais que c'était peut-être un manque de délicatesse dans ce contexte-là, parce que moi, ce que je disais, c'est qu'au contraire, si on présente le spectacle comme célébrant spécifiquement l'art des personnes noires, c'est assez curieux d'effacer leur présence sur scène. Puis le festival de jazz aussi a dit un peu la même chose en disant qu'il était un village global où la race n'existait pas. Donc, je pense qu'il y a quelque chose dans le discours du festival et dans le discours des artistes qui a un peu attisé la colère des gens.
Et je pense que là-dessus, sincèrement, puis en voyant un peu ce que tous les gens qui s'y connaissent un peu, là, parce que là, il faut être expert si on a le droit de parler, pour avoir le droit de dire quelque chose là-dessus, mais je pense que d'un point de vue général, moi, ce que j'ai beaucoup entendu au cours des derniers jours, c'est des gens qui disent c'est vrai qu'on aurait pu faire plus de place à des comédiens, à des artistes de la communauté noire, parce qu'effectivement, c'est un spectacle qui rend hommage à cette communauté, entre autres. Même Robert Lepage le disait dans son communiqué en parlant d'Haïti. Il y en a d'autres également qui ont écrit là-dessus. Bon, bref, je pense que là-dessus, il n'y a pas trop de gens qui débattent. Plus de gens de la communauté noire, ça aurait été sans doute très à propos. Je vous présente également Anya Ursulet, qui est avec nous. Depuis 10 ans, elle est à l'organisme Diversité culturelle Montréal, DAM,
Diversité artistique Montréal.
Voilà, Diversité artistique Montréal. Et vous travaillez sur les enjeux de la diversité culturelle dans les arts et les médias. Comment vous avez vu cette saga et quelle est votre position à vous, Anya, là-dessus?
Alors, on trouve que c'est dommage qu'effectivement ce projet n'ait pas pu être accueilli comme il se doit dans son ensemble. On pense que surtout qu'il y a eu un problème ou un loupé de la part des producteurs dans le processus créatif. Mm-hmm. C'est tout à fait louable, effectivement, et je trouve que c'est plutôt bien de pouvoir évoquer, hors du mois de l'histoire des Noirs, dans le cadre d'un festival international, parler de l'histoire de ces communautés noires et parler de l'esclavage. Mm-hmm. Et c'est vrai que cette histoire, elle appartient aussi bien aux communautés noires qu'aux communautés blanches, puisque effectivement, ça s'est joué à deux, il y avait des oppresseurs et des oppressés. En revanche, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'ait pas tenu compte des alertes et du contexte dans lequel ils allaient effectivement présenter le spectacle. Mmh. Alors effectivement, Marie-Lou avait fait un article et avait juste positionné des questions, et ça c'est des choses qu'ils auraient dû en tenir compte. Deuxième chose, je sais qu'ils ont rencontré Webster, qui les a aussi mis en garde. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'en fait, ils n'ont pas...
Qui devait nous parler d'ailleurs ce matin, puis qui finalement a changé d'idée, il a le droit.
Donc, ils n'ont pas tenu compte du contexte, parce que moi, je peux entendre qu'effectivement, Mme Bonifacié, ça fait 20 ans qu'elle travaille sur ses chants.
Oui.
Sur ses chants. Ouais. Ça, je l'entends, et puis c'est louable de sa part départ.
Et ça nous amène à la question, si vous me permettez, qu'on veut poser aux auditeurs là, c'est qui a le droit de parler de quoi finalement?
Mais
c'est...
tout le monde a le droit. À la limite, on n'est pas sur l'exclusivité d'une catégorie de personnes pour en parler. Mais
quand même.
Non, parce que quand on en parle, il faut simplement le faire avec les personnes concernées. Il faut le faire en respect, il faut le faire avec humilité et il faut tenir compte du contexte au moment où on va poser le spectacle. Il y a quand même des alertes depuis
mais
un certain
si
nombre
je vous comprends bien, vous venez quand même de dire, Anya, il y a eu des oppressés, des oppresseurs, donc effectivement, il y a eu des Noirs et il y a eu des Blancs. Donc là, j'ai compris que pour vous, les Noirs étaient les esclaves et les oppresseurs étaient forcément les Blancs.
Ça, c'est l'histoire qui le dit.
Ouais,
voilà.
Je suis d'accord bon, aussi.
Ça, là-dessus, je pense qu'on est tout à fait d'accord.
Oui, c'est sûr. Mais est-ce que vous... Mais on peut prendre un autre que je connais peut-être plus que la situation des Noirs, mais prenons la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs, les Polonais, les Français... ceux qui sont allés dans des camps de concentration n'étaient pas que des Juifs. Est-ce que les Français qui sont allés, par exemple, et qui sont morts là, eux aussi, peuvent revendiquer une souffrance reliée à la Deuxième Guerre mondiale
et
au mouvement nazi?
Oui, mais
ça n'appartient qu'aux Juifs, ce qui est d'ailleurs beaucoup prétendu par...
Non, ça n'appartient jamais qu'à une catégorie de personnes, voilà. Puisque ça se joue toujours à deux ou trois groupes de personnes. Quand il y a souffrance comme ça, humaniste, où on va, attaquer une catégorie de personnes, ça se joue à deux, ça se joue à trois.
Qu'est-ce qui vous aurait plu? Est-ce qu'il aurait fallu, s'il y avait eu, par exemple, moitié... communauté artistique noire dans le spectacle, est-ce que ça aurait été correct?
Moi, c'est pas une question de mettre des noirs pour mettre des noirs.
Ouais.
L'idée, c'est que on raconte une histoire où il y a eu plusieurs acteurs. Alors, donc, ce qu'il aurait été préférable, c'est de pouvoir venir rencontrer tous les intervenants de cette histoire, notamment les communautés noires, et en parler et le co-bâtir ensemble, tout simplement.
Mais c'est une œuvre artistique aussi.
Oui, mais une œuvre artistique qui s'appuie sur une histoire. Et l'histoire, elle est douloureuse. Il y a encore des répercussions humanistes, économiques et sociales vers les populations noires.
Ouais.
Donc j'ai du mal à comprendre, et puis je l'entends, mais j'ai du mal à comprendre qu'il n'ait pas tenu compte d'un contexte. Depuis quelques années, il y a quand même des faits au niveau de l'opinion publique, où vous vous souvenez de toutes les affaires du blackface, qu'il y a eu pour le rideau vert, qu'il y a eu aussi pour le bye-bye. On a eu aussi le mouvement Black Lives Matter, qui a été repris ici. On a eu les 375 ans de Montréal, où le clip a été retiré parce qu'il n'y avait pas de représentativité de la diversité.
Ouais.
Il y a eu, en septembre 2017, un rapport de l'ONU. Donc, j'ai du mal à comprendre qu'on arrive à s'extraire de tout ce contexte pour mettre en place, pour présenter une histoire relative à des communautés qui souffrent encore de la sous-représentativité et puis qu'on s'étonne de déclencher ce genre de choses.
Ouais.
Donc, c'est pas tant dans l'intention du projet que dans le non-accompagnement et la non-prise en compte d'un contexte pour pouvoir produire ce spectacle.
Moi, je voulais juste entendre Hassan là-dessus.
Comment tu vois ça, toi, Hassan Seradji?
Toi qui es de la communauté culturelle ex-marocaine, française et tout ça. Mélange?
Oui, j'ai même...
des Québécoises?
Des membres de ma famille qui sont noirs aussi.
Okay,
écoutez, moi, c'est le sentiment que j'ai quand ça a éclaté. Pas en décembre, quand s'est sorti l'article, parce que mes collègues, ils ont bien mis la table. La chose qui m'a... C'est un grand gâchis. Alors, on vient de rater une occasion incroyable de présenter un spectacle dans une, on va dire, comme elle a dit Orsolet, que c'était un festival international, à cause de juste, c'est un grand malentendu qui a mené à toute cette histoire. Et dans un monde idéal, si on était dans dans une société où la représentation de la diversité est, on n'a pas de problème de représentation, ça fait des années qu'on est sorti de ça, c'est comme la couleur de peau, la religion, le genre ou l'orientation sexuelle, on n'a plus de problème. Ce spectacle, il peut être joué par n'importe qui.
Mais on n'a pas réagi? Est-ce que c'était la présence sur scène manquante des Noirs? C'est quand même l'œuvre de Betty et Bonifaci, elle a fait deux albums de chants d'esclaves noirs. Comment ça se fait qu'avant, la communauté n'a pas réagi à ça?
Mais
si on parle d'appropriation culturelle, tu t'appropries ta culture puis qu'on dit t'as pas le droit de faire ça, ben t'as pas le droit de chanter des chants qui t'appartiennent pas si t'es blanc.
C'est
Oui, pardon. Vas-y, vas-y. Oui, mais en fait, c'est que je trouve, là où la conversation est en train de se diriger en ce moment, je trouve ça très intéressant, puis j'aimerais ça qu'on s'arrête un petit instant pour déconstruire ça. Parce que là, ce qu'on se dit, c'est qui a le droit de parler de quoi? Oui. Est-ce que ça veut dire que les personnes blanches n'ont plus le droit de parler de la souffrance d'autres cultures? Puis je trouve ça curieux qu'on cadre ça comme ça, parce que je crois personnellement que là n'est pas la question.
Mais je vais vous dire
là,
pourquoi j'en suis...
Parce que, par exemple, moi, personnellement, j'ai jamais déclaré ça. Puis je pense que ce que j'entends...
Mais il y en a
beaucoup,
qui l'ont fait, Marie-Lou. Puis je vais vous citer, si vous me permettez, Moses Sumney. Je vous avoue bien humblement, je le connaissais pas. Ça a l'air que c'est un artiste international de jazz. Il était invité. C'est un Afro-Américain. Il était invité, donc, au festival. Et ça a fait beaucoup, entre guillemets, spinner la nouvelle à l'international, tout ça autour du spectacle slave, parce qu'il a dit sur son... je crois qu'il a annulé son spectacle, justement. Oui. Il l'a fait savoir sur les réseaux sociaux en disant « Récemment, j'ai été déçu d'apprendre que le Festival de jazz de Montréal réservait des soirées et un spectacle appelé Slave, dans lequel un groupe composé majoritairement de Blancs, dirigé par un metteur en scène québécois blanc, chante des chants d'esclaves afro-américains, parfois déguisés en esclaves et cueilleurs de coton, pendant lesquels... et puis il dit « J'ai appris que le festival donc continuait à défendre ce spectacle, pendant lesquels la représentation, les spectateurs, dont la majorité était bien sûr des Blancs, je savais que... » Bon, bref...
Et c'est
le
dis,
ton.
En fait.
Oui, c'est le ton. Mais... Moi, j'ai trouvé ça hyper violent.
Je vais finir mon propos, en fait, que j'ai commencé tout à l'heure, parce que vous allez voir où est-ce que je veux aller avec ça. C'est qu'on a beaucoup dit, est-ce que ça veut dire que les Blancs peuvent plus parler de ces sujets-là? Et puis, même dans ce que vous venez de lire, moi, c'est pas ce que j'entends.
Moi, ce que j'entends, c'est qu'on
est en train de dire que c'est tout à fait possible. Et en fait, c'est même souhaitable que les personnes blanches parlent de sujets douloureux comme l'esclavage. L'esclavage, il y en a eu, par exemple, au Canada. C'est pour ça que je vais finir ma pensée. Il y a eu de l'esclavage, par exemple, au Canada. Il y en a eu au Québec. On ne le sait pas beaucoup. C'est ça le contexte où ça s'est en train d'avoir lieu. Et je pense que c'est absolument important pour nous de reconnaître ce pan-là de l'histoire et d'y réfléchir. Ce que des personnes comme Moses Sumney, comme les personnes qui ont manifesté contre le spectacle disent, c'est que quand des personnes blanches parlent de ces sujets-là, il est extrêmement important de se rendre compte de c'est quoi leur position par rapport à ça, de tenir compte du contexte où ils parlent de ce sujet-là, comme par exemple du contexte de sous-représentation des personnes noires sur scène et de prendre tout ça en considération pour faire un spectacle qui traite de ce sujet-là avec respect. Moi, j'ai pas l'impression que ce spectacle-là aurait nécessairement mené à la polémique qu'il y a eu en ce moment. Je pense qu'il y a quelque chose dans comment le spectacle a été présenté, comment il a été présenté comme étant un spectacle spécifiquement sur les chants des esclaves afro-américains.
Là, il est annulé. C'est énorme, la décision du festival de jazz.
Et j'ai l'impression que...
ils ont raté
exactement. Moi, je déplore...
Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, le garder, puis c'était trop tard.
Moi,
à partir du moment, peut-être qu'il y a eu une mauvaise communication, mais à partir du moment où tu vois qu'il y a des gens qui disent ben moi j'irai pas au festival de jazz de Montréal parce que c'est une gang de racistes blancs, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, Hassan?
C'est trop tard.
Moi, le gars Moses Omni qui dit si en plus tous les spectateurs sont blancs. Moi, j'ai trouvé ça violent parce que ça, c'est du racisme moi. Moi, je vois, sincèrement, je suis peut-être naïve, mais vous êtes noire, moi je suis blanche, je ne vous vois pas comme ça.
Arrêtez un petit peu. Là, vous parlez de racisme. C'est super intéressant ce que vous dites. J'aimerais ça qu'on en parle un peu. La dynamique
raciale... C'est ça que j'essaie de faire aussi, mais c'est parce que...
Oui, mais c'est de ça qu'il faut parler. C'est ça qui est difficile à parler en ce moment. Puis le racisme, c'est pas seulement une personne qui dit « je déteste, par exemple, les personnes noires ». Le racisme, c'est un système hyper complexe qui est fondé sur un rapport de pouvoir qui est inégal. Et puis, quand je dis rapport de pouvoir inégal, c'est pas de personne à personne, mais vraiment carrément le système. Puis on est dans un système où les personnes noires sont sous-représentées et n'ont pas nécessairement le pouvoir, n'ont pas nécessairement accès aux mêmes ressources, aux mêmes tribunes, aux mêmes festivals, n'ont pas nécessairement accès au même capital financier, par exemple, pour se permettre un billet de 60 à 90 $ pour aller voir le spectacle. Et c'est tout un système
qui est
vraiment
racisme,
complexe.
C'est...
Et puis, on par exemple, les personnes
sous-représentées... Moi, je pense que le racisme... Marie-Lou, c'est voir l'autre différent de soi à cause de sa couleur de peau.
Vous comprenez mal c'est quoi la dynamique du racisme, en fait. C'est un système, et ce n'est pas seulement de la haine de personne en personne, mais c'est un système qui tend à discriminer systématiquement un certain groupe de personnes et à leur rendre l'accès aux mêmes tribunes que les autres plus difficile que pour le groupe dominant.
La négligence, l'oubli fait partie du système. Moi, ce qui
Mais le racisme, je veux bien le racisme systémique.
Mais,
là,
le racisme,
c'est une personne qui regarde une autre personne en se disant cette personne-là, parce qu'elle
non,
a du
ça a évolué
c'est
avec
ça,
le temps.
C'est pas que ça. Dame est en train.
Est-ce que je peux juste, je veux juste placer une phrase là-dessus parce que le racisme, il faut.
Là, on est rendu à c'est quoi le racisme?
Non, non,
le racisme. C'est pas important.
Non, non. Moi, je veux pas parler du racisme. Je veux parler de l'implication de ce que fait, le racisme.
D'accord. Alors, on va en parler après la pause, si tu veux bien. Hassan Seradji est avec nous, Marie-Lou Craft est avec nous, Anya Ursulet également. Votre opinion là-dessus, beaucoup de gens m'écrivent, alors vous pouvez, bien sûr, dans le respect, vous aurez compris, pas besoin de vous refaire la leçon là-dessus. Tout le monde est poli, là. 514-790-9850, 1-866-790-9850, pour nous dire comment vous voyez ça, vous, l'annulation de ce spectacle-là, la réaction de Robert Lepage, la discussion qu'on a avec vous, les opinions que vous entendez, dites-moi ce que vous en pensez. On va donner la parole à nos auditeurs sur la saga slave. Donc, on élargit un peu, si vous voulez, l'angle en se posant la question ce matin. Est-ce qu'on marche trop sur des œufs au Québec quand on parle des communautés culturelles? Est-ce que c'est un cas de censure déplorable? Ou au contraire, c'était la chose à faire que d'arrêter ce spectacle qui s'est approprié quelque chose qui ne lui appartenait pas? Daniel, comment vous voyez la chose?
Personnellement, moi, je pense que... C'est un cas pratiquement de censure. C'était un spectacle qui aurait pu évoluer, qui a amené un débat par rapport à l'esclavage. Mm-hmm. Aujourd'hui, vous en parlez, ça n'a pas été de ce spectacle-là. Probablement que vous n'auriez pas parlé. Mm-hmm. Fait que puis les présentations ont été courtes. Je suis fortement déçu. C'est une œuvre artistique. Robert Lepage est quelqu'un de... C'est un génie. Je crois qu'il est un génie. Et il aurait su faire évoluer le spectacle en soi.
Merci, Daniel. Darlene est avec nous. Je crois que vous êtes en faveur du fait que le spectacle ait été annulé, Darlene.
Oui, je suis en faveur que ça ait été annulé parce que je suis tannée qu'il y a peu de représentation de minorités culturelles dans la télévision québécoise. On parle comme ça qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de racisme, mais au moins aux États-Unis, on voit beaucoup, beaucoup de Noirs dans la télévision québécoise. Pourquoi, en ce temps-ci, on est en 2018, il y a peu de représentation minoritaire dans la télévision, dans les séries québécoises? Si on s'entête à faire des Félix Leclerc, des films comme Félix Leclerc, c'est très beau, c'est très bon, mais il y a peu de Noirs. On va être quoi? On va être des esclaves dans les films de Félix Leclerc? Tu sais, le déclin, les chutes de l'Empire américain, il y en a très peu. Pourquoi on dit comme ça que le Québec, c'est une ville multiculturelle? Mais comment se fait-il que dans la télévision québécoise, on voit très peu de Noirs? Regardez la reprise de 19-2. C'est un Noir et un Blanc qui est policier. Comment se fait-il qu'en 2018, au Québec, le Québec, il y a très peu d'émissions, de séries, même de journalistes? Regardez la journaliste à TVA, Mélissa, celle qui a été renvoyée parce qu'elle a fait une erreur. Comment se fait-il? Tu sais, il y en a d'autres journalistes qui font des erreurs, mais ils ne se font pas renvoyer. Comment se fait-il encore en 2018? Et je le redis, comment se fait-il qu'il y a peu de représentation, il y a plus de séries, peu de téléséries, peu de mini-séries, peu de films où est-ce qu'il y a des Noirs ou d'autres nationalités?
Dans le cas de 19-2, là-dessus, peut-être juste pour vous donner l'information, c'est que les deux gars qui faisaient les deux personnages principaux, c'est eux qui l'ont écrit, la série. Ils se sont écrits des rôles. Donc là, bon, qu'est-ce que vous voulez. Après, mais c'est vrai, vous avez raison, dans la version anglophone, il y a eu effectivement un personnage, un des deux, qui était plutôt, qui était un noir. Mais bon, mais c'est sûr, on ne peut pas blâmer Réal Bossé. Puis,
non, ça, je le sais, c'est super.
Et Claude, le go de cette fête des rôles. Bon. Merci beaucoup de votre opinion. On va s'arrêter ici. On va poursuivre un petit peu encore après la pause avec les commentaires des auditeurs. On a Richard avec nous. Bonjour, Richard. On parle bien sûr de cette saga du spectacle Slave. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, bonjour à vous. Moi, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Premièrement, je suis absolument contre qu'il ait arrêté la pièce.
Ouais.
Mais au début de la pièce, là, il y avait deux choristes. Puis c'est drôle, au début de la pièce, on disait qu'il y avait eu des demandes, puis ils sont pas allés. C'est bien beau critiquer après. Puis t'es là sur le trottoir, puis tu regardes la parade, t'es un blanc qui fait ça. Robert Lepage, écoutez un peu, c'est pas un clown sur le bord de la rue, ça, ce gars-là. Ouais.
Mm-hmm.
Moi, je trouve que c'est vraiment... On s'en va où avec ça?
Ouais. Merci, merci beaucoup. Merci. Jonathan, votre opinion là-dessus? Jonathan, on vous écoute? Jonathan, est-il là? Bon, alors, prochain. Je vais donner la parole à mes invités. Alors, on est en compagnie d'Ania Ursulet, qui est de l'organisme Diversité artistique Montréal. Hassan Siradji est conférencier collaborateur à la presse. Marie-Lou Kraft est dramaturge. Elle est critique et auteure. Elle a écrit un texte, d'ailleurs, dans Urbania en décembre 2017, qui a un peu réveillé les consciences concernant ce débat sur le spectacle slave. Hassan veut dire quelque chose.
Oui, oui. Il y a une chose qui est arrivée avec cette affaire, c'est qu'on est passé à côté du vrai sujet. Si on enlève le bruit de fond,
ouais.
C'est la sous-représentation. Il y a des gens... quand les gens réclament plus de représentation, ce n'est pas un caprice. Ce n'est pas quelque chose de victimisation.
Non, tout à fait, ouais.
C'est, moi, là, une meilleure représentation, c'est le meilleur vaccin pour nous rapprocher.
Mais ça, c'est un vrai débat. Le débat n'est pas parti là-dessus.
Le débat est parti
sur l'appropriation culturelle.
Oui, on prend...
t'es des Blancs, tu ne peux pas chanter des chants d'esclaves noirs.
C'est pas ça le vrai débat. Non, écoutez, il y a des gens... C'est pour cela que j'ai qu'il y a un brouhaha. Un bruit de fond.
D'ailleurs, on l'a comparé au blackface, n'est-ce pas, Ania, ce que vous avez dit tout à l'heure. Après tout ce qui s'est passé sur le blackface, où on a dit qu'il ne faut pas que des Blancs se prennent pour des Noirs, c'était surtout une question
contextuelle. Parce que quand on aborde ce genre de sujet, et apparemment, Mme Bonifaci et M. Lepage en étaient conscients, ils l'ont dit, qu'ils étaient conscients, effectivement, c'était un sujet sensible. Je ne comprends pas qu'ils n'aient pas cherché à se faire accompagner, qu'ils n'aient pas cherché à être outillés et qu'ils n'aient pas
Ils auraient simplement pu aussi
s'accompagner des communautés noires.
Ouais.
Parce que vous savez, il y a une chose. Quand on n'est pas entendu, vous savez ce qu'on fait, on crie plus fort.
Ouais.
Et là, effectivement, on est sur des postures manichéennes où chacun tient sa posture et on ne s'entend pas.
Nathalie est d'accord avec vous. Elle m'écrit « Je suis une femme blanche, non raciste, mais si j'allais voir... » C'est rendu qu'on est obligé de le dire. Mais si j'allais voir cette pièce concernant l'esclavage de la communauté noire, je me serais attendue effectivement à voir des Noirs me raconter cette histoire. Ça aurait été un peu plus réaliste. Donc, je pense qu'il y a des gens qui sont capables de dire « Oui, sur la représentativité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. » Je pense que tout le monde s'entend.
Si même
ça aurait été une bonne idée. Mais sur l'appropriation culturelle, je reviens là-dessus parce que... C'est ce que disait Robert Lepage et d'autres comme Serge Postigo hier qui disaient si on ne peut plus, si la posture de l'artiste qui est de représenter ce qu'il voit, c'est assez personnel.
J'ai envie de vous donner un exemple parce que Robert Lepage dit dans son texte justement depuis la nuit des temps, en théâtre, ce qu'on fait, c'est se mettre dans la peau de l'autre.
Ouais.
Donc on remonte jusqu'à la nuit des temps. Là. Je vais remonter un petit peu jusqu'à l'époque où sur scène, c'était que des hommes qui interprétaient des femmes et les femmes n'avaient pas accès à la scène.
Mm-hmm.
Je serais vraiment curieuse de faire une revue de presse à cette époque-là, à savoir si les premières fois que les femmes ont commencé à dire, ça serait bien qu'on ait accès à la scène et puis qu'on puisse s'en représenter nous-mêmes, si les metteurs en scène ont répondu en disant qu'il s'agissait là d'un affligeant discours d'intolérance.
Mm-hmm.
Je serais vraiment très curieuse de savoir comment ça s'est déroulé, ces avancées-là, où on a donné l'accès à la scène de plus en plus à des personnes pour qui on parlait tout le temps, mais qui n'avaient pas accès à cette scène-là pour pouvoir parler d'eux-mêmes. Donc,
mais par exemple, je comprends tout à fait. Vous avez raison que ça fait avancer du débat. Mais à ce moment-là, dans la même logique, on va dire à Jean-Michel Anctil, ton personnage de Priscilla fait le pu parce que t'es pas une femme.
Mais c'est ça qui est curieux, en fait.
Puis là, en plus, comme c'est une Priscilla,
c'est une situation où, moi, je pense que c'est vraiment une question de contexte. Là, je remontais, là, mais là, on est dans une société où ça commence à changer pour les femmes. Les femmes ont maintenant accès à la scène. Donc, c'est ça le contexte. Le contexte est qu'il y a un peu plus d'égalité qu'il y en avait pour les femmes. Mais malheureusement, on n'est pas encore nécessairement à un contexte où il y a à ce point-là de l'égalité pour les personnes en minorité sur la scène. Donc, c'est pour ça que c'est très important de faire attention quand on fait des projets comme celui-là. Je pense que si le projet avait été présenté depuis le début comme une traversée à travers l'esclavage, à travers les temps, pour montrer que plusieurs personnes ont été victimes, plusieurs peuples ont été victimes d'esclavage, ça aurait été différent. Mais là, on l'a présenté comme un spectacle sur les champs d'esclaves noirs. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a eu une réaction aussi forte.
Je veux donner un exemple très simple. Quand quelqu'un, dans une œuvre artistique, n'importe laquelle, veut toucher à l'Holocauste, tout le monde met des gants blancs. Il va aller voir les gens, ils vont aller voir les survivants de l'Holocauste, lire des ouvrages, faire un travail très avec la communauté, parce que c'est très, ça touche la fibre de ce problème. Mm-hmm. Et c'est ce qui n'a pas été fait dans ce contexte-là. C'est juste de parler aux gens, leur dire voilà ce qu'on va faire comme travail, rapprocher. Deuxième chose, si même pour le rôle où qui sont destinés à des noirs, on va pas les donner à des noirs, alors on va leur donner ces rôles cons. C'est déjà très difficile.
C'est parce qu'on s'arrête où, Hassan? Il y a quelqu'un qui m'écrit, là, Jocelyne me dit, Marie-Josée Laure, qui est une noire qui chante la bohème. Bon, elle n'est pas blanche, elle n'est pas italienne.
Ça, c'est intéressant parce que le rapport de pouvoir dont je parlais plus tôt est complètement inversé.
C'est ça qui est dangereux, je trouve.
Mais non, en fait, c'est parce que la raison pour laquelle personne se plaint de Marie-Josée Laure, c'est parce qu'il n'y a pas le même problème dans ce cas-là. Je trouve que des fois, il y a des dérives où on donne des exemples complètement tirés par les cheveux où là,
pourquoi il
n'y
a pas le même
pas.
Problème?
Ben, parce que le rapport de pouvoir n'est pas le même. On parlait de discrimination, puis on parlait de racisme, qui est un grand mot, mais on essayait de le présenter tout à l'heure comme un rapport de pouvoir déséquilibré. Et là, le rapport de pouvoir est complètement pas le même dans le cas où c'est une chanteuse noire qui reprend d'autres...
Oui, mais les Italiens pourraient dire que ça y appartient pas.
C'est un contexte complètement différent et moi, je vous implore de prendre connaissance du contexte où les choses s'inscrivent.
Ouais. Moi, j'ai une question là, toute bête à vous entendre, etc. Je me demande si, effectivement, quand on va raconter l'histoire, là, est-ce que M. Lepage et Mme Bonifaci qui voulaient raconter l'histoire des chants noirs ont organisé des auditions tout simplement auprès de la communauté noire pour trouver des représentants de cette histoire. Moi, je me pose la question.
Mm-hmm. Moi, je veux répéter une chose.
Est-ce qu'on peut y répondre? Est-ce qu'ils pourraient nous répondre là-dessus? Est-ce qu'ils ont fait la démarche? Parce que là, il s'agit de raconter, comme disait Marie-Lou, l'histoire des Afro-Américains esclaves. Est-ce qu'ils ont été voir dans la communauté qui n'est pas du tout représenté.
On reparle de la représentativité.
Ben voilà, c'est toujours ça.
Je pense qu'on s'entend là-dessus.
Voilà. Je pense que c'est important. Et puis, je pense que s'ils avaient été mis dans la boucle, je pense pas qu'on aurait cette polémique aujourd'hui.
Fait que vous pensez que ce n'est qu'une question de représentativité?
C'est pas de la représentation. C'est que, à partir du moment où on s'approprie, où on va raconter l'histoire d'une communauté, il est clair que la communauté doit être partie prenante.
Ouais.
C'est évident. On peut pas et puis d'autant plus dans le contexte des dernières années où il y a eu quand même beaucoup de dénonciations sur le fait qu'il n'y avait pas de représentativité.
Donc,
j'ai du mal à comprendre qu'il se soit extrait de cette réalité-là.
Ouais. Personne ne peut être ravi que le spectacle a été annulé. Ça aussi,
s'il revenait, mais avec...
Alors, je l'espère. Moi, je l'espère.
Voilà. Vous voulez quoi? Il revient?
Moi, je l'espère et qu'il revienne et c'est surtout qu'il ouvre un dialogue. On a
Marie-Lou,
besoin.
Depuis le début, j'espère un dialogue. J'espère qu'il va se poursuivre.
Bon. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on le refasse, ce spectacle. Moi, j'ai un rêve. Alors, je ne vais pas faire comme Martin Luther King, mais j'ai un rêve que ce spectacle soit représenté l'année prochaine dans le cadre du Festival international de jazz. Mais revue, en ayant consulté la communauté et que chaque partie concernée soit partie prenante. Et je suis sûre que cette fois-ci, il sera très bien accueilli.
Je vous remercie beaucoup à tous les trois d'avoir discuté de tout ça avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup.
Merci.
On va s'arrêter ici tout de suite après la pause. Un couple adepte de longboard qui roule à plus de 130 km/h. C'est pas rien. Restez là, tout le monde.